Blabla,
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 blabla, le podcast de Bike Café.
Pour ce chapitre 99, je rencontre dans nos bureaux à Aix-en-Provence Eric Van Averbeek, qui a été l'artisan de la renaissance de la marque de vélo Dilecta. Curieuse coïncidence du calendrier, car il y a exactement 3 ans de cela, j'avais testé pour le magazine Cyclist le premier vélo de la marque tout juste sorti des ateliers de fabrication de Sifac. Ce vélo jaune, qui reprenait la couleur des anciens coursiers fabriqués autrefois, était baptisé Le Blanc, en mémoire à ses origines. Ce premier vélo, avec son cadre en acier, était porteur de quelques symboles du passé et marquait un nouveau départ pour cette entreprise. Le challenge d'Eric était énorme, faire revenir au devant de la scène une marque oubliée depuis plus d'un demi-siècle. Dans cet entretien, que vous écouterez jusqu'au bout j'espère, vous découvrirez comment on peut souffler sur des braises éteintes depuis les années 60 pour faire à nouveau jaillir le feu de la passion. Il faut une volonté de vrai passionné pour relancer, sans l'apport de gros investisseurs, une marque et la replacer dans l'air du temps, en gardant à l'esprit qu'elle a été fondée dans le passé. Cet exercice difficile est réussi pour Dilecta, alors que d'autres marques plus célèbres pourtant patinent encore pour émerger par de lourdes stratégies marketing sur un marché où il y a foule. Les vélos Dilecta en acier sont réussis et le modèle Gravel Forza, qui a suivi le modèle route Leblanc, est apprécié par tous ceux qui l'ont acquis. En 2024, la marque va commercialiser un modèle en aluminium qui va démocratiser sa gamme Gravel. Avec un prix de départ de 3000 euros, plus de clients auront accès à un vélo Dilecta, toujours produit en petite série et monté dans les ateliers d'Aix-en-Provence. Merci Eric pour cet échange passionnant et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes de diffusion audio, Ocha, SoundCloud, Apple, Deezer, Spotify, ainsi que sur la page podcast de notre site internet www.bike-caf.fr. Bonne écoute.
Bonjour Eric, merci de venir nous rencontrer dans les bureaux de Bike Café. On va faire ce petit podcast ensemble, on se connaît bien. Je connais bien aussi ton vélo parce que je me suis rendu compte, en fait, en relisant les articles que j'ai fait, que le 16 mars, je faisais l'essai du Dilecta route le 16 mars il y a 3 ans. Donc on est pratiquement à l'anniversaire de cet essai qui a été publié sur Bike Café puis également sur le magazine Cycliste. Donc Dilecta, j'ai vu naître quelque part, mais c'est toi qui l'as porté sur les fonts baptismaux. Dilecta, alors, peux-tu nous dire comment est venue l'idée de cette résurrection? Parce que c'est carrément ça, cette marque qui existait, qui avait disparu, 60 ans de silence, je crois, à peu près, qui était une marque énorme dans les années 50, qui a vu finalement des pelotons de coureurs professionnels qui ont obtenu des succès incroyables. Et malheureusement, dans la mémoire populaire, elle est peut-être moins connue que les Mercier et les Peugeot. Et aujourd'hui, Dilecta, il faut la faire revivre. Hein. Donc, à la fois, la marque, elle est là, elle est présente, elle a de la valeur, mais aujourd'hui, il faut la ramener un petit peu sur le devant de la scène. Alors, tu t'en charges depuis 2021, c'est ça. Hein. Donc, 2021. Alors, Eric, pourquoi Dilecta?
Alors, bonjour Patrick, merci de m'accueillir à Aiguille. Là, je prends beaucoup de plaisir à venir vous voir. Effectivement, c'est une belle histoire. C'est une formidable aventure humaine, voilà, avant tout. La renaissance du phénix, on peut dire, comme tu disais, la renaissance de Dilecta, puisque Dilecta a disparu en 1968. Donc voilà, ça fait effectivement plus d'un demi-siècle que la marque a disparu. C'était effectivement une grande marque française qui a été créée en 1913 dans la commune du Blanc par Albert Chicherie et qui faisait partie des grands noms du cyclisme effectivement dans les années 20, 30, 40 jusque la fin des années 60 avec une production, si on commence par la partie industrielle, parce que c'est assez intéressant, au Blanc. La marque Dilecta Leblanc, facilement reconnaissable avec sa plaque de cadre, avec ce qu'on va appeler la Marianne, et puis sur l'étoile. L'étoile étant quelque part le symbole de l'excellence de la marque. Beaucoup de marques comme ça qu'on peut retrouver, comme l'étoile, dans différents univers, comme San Pellegrino, ou Heineken, l'étoile rouge, ou...
Même en vélo, il y a Stella,
également. Donc on retrouvait comme ça, c'est des images assez fortes avec l'étoile et puis la Marianne. Et donc un site de production au blanc où ils fabriquaient plus de 35 000 vélos, tout type de vélos. Un deuxième site, un atelier à Tours, où effectivement, comme tu l'as dit, Dilecta a écrit aussi les plus belles pages du cyclisme dans les années... ça a commencé vraiment dans les années 20, puisque bon, 1913, la création de la marque. Ensuite, les ateliers ou l'usine au blanc a été réquisitionné pour fabriquer les obus pendant la Première Guerre mondiale par le gouvernement français. Et l'activité a repris véritablement à la fin de la Première Guerre mondiale avec un fondateur qui était un passionné de vélo et qui tout de suite a sponsorisé des équipes locales, régionales, nationales avec la création de l'équipe Dilecta Volbert. Dilecta Volbert, c'est les forçats de la route. C'est les frères Pélissier,
effectivement,
vainqueur du Tour. C'était vraiment les stars de l'époque, les frères Pélissier. Le Drogo également, vice-champion du monde, maillot jaune du Tour, champion de France en 1928. Enfin bon, il y avait toute une époque.
Ouais, donc cette marque chargée d'histoire, comme tu viens de décrire, était intéressante de ce point de vue-là. Mais il y a autre chose quand même derrière tout ça qui t'ont donné l'idée de...
Ah oui, alors
de reprendre d'abord la marque, elle était éteinte, enfin,
bien sûr, elle avait disparu, effectivement, elle a disparu en 1968, et puis pourquoi Dilecta et pourquoi faire renaître Dilecta? Moi j'étais dans l'industrie du cycle depuis plus de 20 ans déjà, avec des expériences dans des belles marques françaises. Commencé par MBK, anciennement Motobécane, les pneumatiques Hutchinson, ensuite 9 ans la direction commerciale et marketing de Look et la gestion des filiales, et donc un fil rouge, la fabrication française aussi.
C'est presque logique. Alors,
voilà, tout à fait, et puis j'avais toujours en tête, j'avais cette envie qui me trottait dans la tête depuis déjà longtemps. Je me disais, si l'occasion et toute l'expérience que j'ai pu accumuler, tout ce que j'ai vu dans l'industrie du cycle, à tous les niveaux, que ce soit au niveau industriel, mais aussi sportif, sports marketing, etc., tout ce que j'ai vu, si j'ai l'occasion de le faire, je saisirai l'opportunité. Le Covid est arrivé par là, j'avais quitté Loop depuis un peu plus d'un an et demi, et je suis retombé sur le bout de mon père qui était effectivement... qui était professionnel dans les années 60 et qui a fini sa carrière chez Dilecta. En fait, j'ai cabommé Dilecta. Alors, tu parlais de Mercier, effectivement, le Mercier avec Poulidor a été vraiment sur le devant de la scène. Et puis, Dilecta, c'est André Darrigad qui a fini aussi sa carrière sur Dilecta. Et donc,
quelque part, il y a quand même une relation, je dirais, entre, en fait, la filiation, du coup, et l'histoire de ton père, dont tu sais qu'effectivement, voilà. Il y avait cette marque-là, qui était, en fait, sous le tapis, hein, on n'en parlait plus, mais, et donc, du coup, ça,
en retombant
sur c'est un peu une logique à la fois familiale, tu as parlé de ta carrière dans le vélo, etc. Au passage, tu as été aussi chez Golazo, je crois.
Alors oui, je suis parti. Donc, après Loup, j'ai fait une année à la direction de Golazo dans l'événementiel sportif, qui était un peu finalement très complémentaire. J'étais sponsor avec Loup à l'époque de la Marmotte et de d'autres épreuves des cycling classiques, et puis effectivement c'était une pierre complémentaire à l'édifice en organisant pendant un an la Marmotte, le Tour du Mont Blanc, toutes ces épreuves liées directement au cyclisme. Il y avait aussi un peu d'athlétisme à Paris, mais effectivement voilà, donc on dit toujours qu'il y a pas de hasard. Retomber sur ces articles de mon père et ses photos, ça m'a remémoré ce vélo jaune qui était dans le garage quand j'étais gamin. Mon père avait terminé sa carrière, moi je suis né dans les années 70. Il y avait ce vélo jaune, et je me suis replongé dans l'histoire de la marque. Et puis je me suis dit...
Bah, tu l'as gardé, le vélo jaune de ton papa, ou...
Alors malheureusement, je ne l'ai pas gardé. J'ai retrouvé une trace parce qu'une personne m'a contacté en me disant que elle avait effectivement, mon père avait vendu son vélo à un moment donné, qu'il avait racheté ce vélo dans les années 70, 75, 76, et voilà, et qu'après il l'avait revendu, et que voilà, j'ai pas retrouvé la trace, mais j'adorais, mais j'ai retrouvé un vélo, en revanche, j'ai fait le tour.
On peut passer une annonce sur Bike Café, alors voilà, si vous avez l'ancien vélo du papa d'Eric Van Averbeek, ton papa, son prénom
Jean-Pierre
Van Averbeek, qui a couru avec Dariade, si vous avez ce vélo, sachez que Eric serait très heureux de pouvoir le récupérer.
Le retrouver, tout à fait. Sauf
que ton père était grand aussi, comme toi, parce que toi, tu mesures quand même...
Alors, je suis plus grand, monsieur. Je suis un 88, lui, c'était plutôt un routier sprinter. Donc,
d'accord, oui.
Il était plutôt costaud, 1m75, un musculeux d'1m75. Ouais. Il avait du mal à passer la montagne.
Donc il pouvait lancer la régate quand même,
c'est hein, ça.
Dans les arrivées au sprint. Ok, bah, écoute, oui, quelle belle histoire, effectivement. Alors bah, du coup, 2021,
c'est...
Pof, coup de départ, on y va, quoi.
Tout à fait, on y va. Je passe quand même, c'est intéressant, c'est une belle histoire humaine, je passe, j'appelle la mairie du Blanc, parce que je relis l'histoire, je vois qu'il y a une association qui fait vivre l'exposition de Dilecta au Blanc, au sein du musée des Amis du Blanc, il y a le château Néliac également, donc je prends contact, je parle, il y a toute une mémoire forte et une association qui continue à faire vivre, qui a continué à faire vivre cette marque. Et donc j'y vais, je présente mon projet. J'ai été vraiment très bien reçu par les élus locaux régionaux, le monsieur Bonneau également de la région Centre-Val de Loire, en disant voilà, mon projet c'est de faire revivre cette marque avec une fabrication locale, régionale, en région Centre-Val de Loire dans un premier temps.
D'accord. Alors, donc, comment ça se passe, une marque, quand elle est tombée comme ça, on la rachète, ou elle est prenable, sans rien, on peut se l'approprier, comment ça se passe?
Bah, il faut faire des recherches, c'est intéressant. Il faut faire des recherches, savoir si, effectivement, la marque est déposée, bien sûr, parce qu'un bon nombre de marques sont aujourd'hui déposées, où il peut y avoir des ayants de droit, c'est-à-dire la famille.
Je te parle de ça parce que ça a été le cas avec Idéal. Il y a un mec on t'a parlé sur Bike Café, qui s'est mis à refaire les salles idéales à l'identique, en retrouvant les ouvriers, enfin ça aussi c'est une histoire incroyable, en retrouvant les ouvriers qui les fabriquaient, hein, donc il a repris le processus, ça a refait ça identique, mais il y a eu un accord en fait avec la famille qui était propriétaire de la marque.
Écoute, en ce qui concerne Dilecta, les recherches que j'ai pu mener avec mes conseils notamment, il n'y avait pas d'ayant droit. Donc, la marque était tombée dans le domaine public, tout simplement. Donc, il suffisait quelque part de redéposer la marque, ce que j'ai pu faire. Alors, moi, je voulais avoir quand même un aval, des gens du Blanc, parce que c'est une marque qui est... les gens sont attachés, donc vous pouvez présenter, voilà.
Un porte au Blanc, parce qu'au Blanc, il y a encore l'usine, il y a encore le vélodrome, il y a plein de marqueurs de l'époque, et je pense qu'il y a encore sans doute des gens qui doivent être très vieux, mais qui ont travaillé.
Tout à fait, il y a encore le directeur de la production, figure-toi. Nous avons organisé pour fêter la renaissance de la marque une randonnée Paris-le-Blanc. Une partie de Paris, on a rejoint le vélodrome du Blanc, alors en pleine période du Covid. On a été accueillis par 150 personnes au vélodrome, et on a eu le plaisir à la fois de retrouver. Des gens qui avaient vécu la production Dilecta, donc le directeur de la production, un monsieur qui a 93 ans aujourd'hui, qui nous a raconté de très belles anecdotes. On a aussi des enfants de Jean-Louis Verviat, qui est un coureur connu local, qui a été, il me semble, qui a fait les JO, et qui, voilà, la famille qui était ravie de revoir les vélos jaunes, revenir sur le vélodrome du Blanc. Voilà. Et le vélodrome a été financé à l'époque par Dilecta, effectivement, il y avait 250 personnes.
Blabla, le podcast de Bike Café.
Donc, tu as obtenu cette caution et puis en fait ce soutien aussi de cette population qui était encore très très fervente, de façon très fervente accrochée à la valeur de cette marque. Et donc là, donc on est au go. Alors donc comment tu t'y es pris? Parce que alors, du coup, relancer une marque, c'est bien joli. T'as plus de vélo, t'as pas en gros un bureau d'études avec toi. Tu démarres les mains dans les poches. Non, c'est avec le cœur, avec l'envie, avec en fait ton expérience dans le monde du vélo. Mais néanmoins, tu pars à zéro.
Tout
tu
à
pars
fait.
De la page blanche.
On part de la page blanche. On fait beaucoup de recherches sur l'histoire de la marque, sur son ADN, sur tout ce qui s'est passé vraiment à la fois sur la partie industrielle pour pouvoir relancer la marque, mais vraiment, en harmonie avec ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que nous, en fait, quelque part, on poursuit l'écriture de cette marque. On est redevable des gens qui, je dis, moi, je ne me considère pas comme le fondateur, ou voilà, ce serait peut-être le refondateur de la marque Dilecta, mais il y a tout un passé, un ADN, un héritage que l'on respecte, sur lequel on s'appuie, et donc la volonté que j'ai eue lors de la relance de la marque, c'était de dire, ok, on relance Dilecta, c'était une fabrication dans la région Centre-Val de Loire, et on va relancer cette marque avec une fabrication en région Centre-Val de Loire. Donc, ayant cette expérience, ayant travaillé à l'époque d'MBK, à l'époque on faisait les cadres Cofidis, l'époque de Vandenbroek, de Nico Matan, de toute cette équipe, et effectivement, on avait un département vélo spéciaux, mais rapidement on a fait faire, à l'époque, c'était de l'aluminium à l'époque, Columbus aussi, mais on a fait faire les cadres vraiment au millimètre chez Sifac pour les types Cofidis.
D'accord.
Et où j'avais gardé.
J'étais cogné à la porte de Sifac, donc voilà, avec le projet.
Exactement, tout à fait, avec le projet, en disant, voilà, j'ai contacté Emery chez Sifac en disant, voilà, j'ai ce projet de relancer la marque, la fabrication. J'avais travaillé au préalable avec les designers et puis des ingénieurs sur les géométries qu'on voulait développer. Donc ça, on a tout fait en amont, à la fois sur la partie gravel pour le forçat et puis le blanc.
Oui, parce que là, tu pouvais pas partir sur les géométries de la marque quand elle s'est arrêtée, puisque évidemment, le monde avait changé à ce niveau-là. Et puis surtout, le gravel, c'était quelque chose dont on parlait pas. C'était un peu... Alors, il y avait une randonneuse, mais enfin, il y avait des randonneuses, mais il n'y avait pas encore de gravel. Donc, il fallait réinventer un vélo, tout avec ce respect dont tu nous as fait part tout à l'heure. Donc il fallait garder l'esprit de la marque tout en étant très moderne.
Exactement. L'idée c'était de faire entrer la marque dans la modernité quelque part tout en gardant son héritage. Et puis il était logique pour nous d'arriver avec des cadres en acier, dans la mesure où effectivement la marque s'était éteinte à l'époque avec des cadres en acier. Et on arrivait sur une pratique à la fois sur le vélo de route avec un vélo endurant, un vélo très qualitatif, plutôt haut de gamme. Et puis, bien sûr, aussi, on pourrait considérer à l'époque que les frères Pélissier, les étapes du tour, c'était 300, 400 kilomètres, ça partait la nuit, ça arrivait la nuit, c'était chemin de terre, c'était des graviers, c'était le gravel à l'époque, déjà.
C'est pour ça que votre modèle de gravel, vous l'avez appelé forçat.
Tout à fait, voilà, c'était très logique. C'était les forçats de la route. Mais c'était une pratique gravel. Et on a retrouvé un vélo, une randonneuse entre guillemets Dilecta des années 30, et on pourrait considérer que c'est quand même l'ancêtre du gravel. Voilà. Donc c'était logique. Ouais. Voilà. Donc et on souhaitait aussi positionner la marque. Voilà. Vélo qualitatif, ça je pense que c'est ce qui nous caractérise, c'est qu'on propose des vélos élégants. Des vélos qualitatifs, de fabrication française et par extension, parce que on est aussi conscient d'un point de vue industriel ou technique.
Oui, réalité industrielle.
Voilà, réalité industrielle qu'on ne pourra pas forcément faire tous nos produits aujourd'hui en France.
Puis c'est sûr que Sifac n'a pas la capacité non plus à produire, parce que Sifac produit à la fois pour eux et pour Meral.
Sûr.
Un peu pour Wishwan, donc avec vous, 4 marques, et je pense que c'est soit Emery qui devient une grosse usine, et je pense que c'est pas vraiment leur ambition, ils veulent rester toujours à la marge de l'artisanat, et donc ils ne peuvent pas non plus grossir énormément. Donc effectivement, au bout d'un moment, il faut quand même diversifier, trouver d'autres sources.
Tout à fait, donc,
mais ça, on va en parler, je pense que c'est un peu, ça fait partie de l'avenir. Donc là, aujourd'hui, on a démarré. Je vais essayer de suivre la chronologie un petit peu de ce qui se passe. Donc la marque est partie. Donc le choix a été fait de la vendre sur Internet, puisque évidemment tu pouvais pas établir boutique un peu partout, créer un réseau comme vous pouvez le faire avec Look.
Mais
là il fallait changer de modèle modèle commercial. Aujourd'hui d'ailleurs c'est un modèle commercial qui bouleverse un peu toutes les pratiques du commerce aujourd'hui. Donc on voit bien que vous êtes rentré en fait dans ce mode de commercialisation avec quand même donc un démarrage. qui s'est fait comment? Alors,
Alors le démarrage s'est fait de façon assez très très naturelle. On a fait effectivement, on a démarré avec la vente en ligne sur dilectacycle.com, et puis on a également quelques magasins. C'était pas notre objectif prioritaire, mais ça faisait partie quand même de.
Ah oui, je me souviens, kilomètre zéro,
on a célébré la renaissance de la marque avec un showroom, un corner qui existe toujours chez kilomètre zéro à Paris. Et puis on a eu quelques magasins qui nous ont sollicité, avec qui on a collaboré. L'idée étant effectivement, quand tu vends des produits haut de gamme, techniques, d'un certain prix, c'est effectivement la possibilité de voir les produits aussi avant de les acheter.
Ah oui,
donc c'est important d'avoir aussi des points relais. Et donc on est allé jusqu'à 5 magasins, donc Culture Vélo à Anglette, à côté de Biarritz, à Caen, Kilomètre Zéro, et puis Drop Bar également, Château. Mais l'objectif, sachant que notre capacité de production était vraiment très limitée, n'était pas de dire voilà, on va
faire du volume. Voilà,
tout à fait. Ouais. C'est d'avoir.
Enfin, vous aviez quand même cette caution de qualitative du fait que Sifac fabriquait, et que Sifac a cette réputation quand même de qualité de fabrication reconnue, que finalement, des vélos qui allaient sortir, ça allait forcément être des bons vélos. Enfin, même si la marque était. Donc vous avez bénéficié effectivement de cette caution très forte. Enfin, techniquement.
Je n'avais pas de doute sur la qualité des produits que l'on sort. Je crois que tous les clients qu'on a livrés jusqu'à aujourd'hui sont vraiment très satisfaits des Leblanc et des Forçats.
J'ai eu la chance d'interviewer Paul Belmondo pour un sujet donc sur un magazine. Et effectivement, il roule sur un Dilecta. J'ai découvert à cette occasion que c'était un grand rouleur qui faisait quand même pas mal de bornes.
C'est un cycliste chevronné. Moi j'ai connu Paul effectivement chez Look à l'époque, hein, puisqu'il était aussi ambassadeur de Look quelque part. Et c'est là où on s'est connu, et c'est quelqu'un que j'ai toujours très apprécié parce que c'est un cycliste chevronné qui roule beaucoup.
Oui, très informé, parce qu'il a travaillé avec Fignon et puis Alain Prost et puis son le troisième larron qui avait créé une marque. Donc il a été un peu dans cette mouvance-là à l'époque. Donc,
voilà, tout à fait.
Donc voilà, vous aviez quand même beaucoup d'atouts dans la manche pour que ça.
Pour lancer la machine.
Donc, aujourd'hui, alors Eric, où en sommes-nous? Parce que donc là, 2021, donc on est en 2024. Hein, donc tu vas nous parler un peu de ce qui se passe maintenant, parce que là, on est. Évidemment, la pandémie, le Covid, c'est un peu loin derrière. Là, on aborde une année qui a été difficile dans le monde du vélo par rapport à l'engouement qui a été créé sur le vélo, la forte demande qui a créé du stock chez beaucoup de marques et qui aujourd'hui essayent de vendre. Mais voilà, donc faut se différencier. Vous êtes sur un monde éminemment concurrentiel, et donc que ce soit au niveau des tarifs, au niveau de l'attractivité des produits qui viennent de très loin à des coûts très modestes. Donc aujourd'hui, 2024, ça va être une année stratégique pour vous.
Oui, c'est une année de développement, résolument c'est une année de développement. Après ces deux années passées, de belles années de croissance pour Dilecta, une croissance mesurée, mais une croissance intéressante, c'est une année de développement avec l'élargissement de la gamme. Alors ce qu'on nous a demandé effectivement, c'est que notre prix moyen jusqu'à aujourd'hui était de l'ordre entre 5 et 6 000 euros, hein, avec nos cadres en Columbus Spirit, et puis on a des montages qui sont des montages, on a vendu beaucoup d'écarts par exemple, en 13 vitesses, on en parlait, du Campagnolo, mais aussi bien sûr du GRX sur les Forçats, mais on nous a souvent demandé la possibilité d'avoir accès à un vélo de qualité sur un budget qui était plutôt de 3 000 euros, entre 3 et 5, et
non pas entre 5. En plus sur le Gravel, qui est encore un outil que les gens n'ont pas interprété comme un vélo unique, hein, ils l'interprètent comme un vélo supplémentaire, surtout exactement. Sur les routiers, enfin, tu connais bien ce monde de la route, avec l'exigence qu'ont certains sur des cadres extrêmement légers, avec des roues très performantes. Alors évidemment, c'est un peu si on monte sur un gravel, on sera un petit peu déçu si on a cette volonté de performance. Donc en fait, les gens gardent un vélo performant et puis s'achètent un gravel parce que voilà, c'est un peu des envies d'aventure et de sortir un petit peu du carcan de la route. Donc effectivement, c'est comme un deuxième vélo pour certains. Donc ça peut les rajouter du budget. Pour d'autres, effectivement, ils ont compris qu'on pouvait passer sur un vélo unique avec deux paires de roues, par exemple. Mais donc voilà, il y a un marché là. J'imagine.
C'est très bon prix, même. Voilà, donc effectivement, pour nous, c'est important d'être capable de proposer une offre sur ce segment de marché avec des produits toujours qualitatifs, prioritairement de fabrication artisanale, et avec un prix qui correspond justement à garder des produits accessibles. Donc on arrive avec une nouvelle gamme de Forsa, c'est-à-dire le petit frère du Forsa en acier, qui s'appelle le Forsa AL pour aluminium. En fait, ce sont des cadres en aluminium 7005, les Dédales Firelight, qui sont fabriqués également à l'unité. On est sur le même modèle que nos cadres en acier, à l'exception que ces cadres sont fabriqués en Vénétie, à côté de Venise, chez les meilleurs artisans italiens que je connaissais aussi à l'époque.
T'as un bon sourcil, c'est vrai que l'Italie a lâché beaucoup moins que nous sur le monde du vélo, et ils ont toujours du sourcing local qui est très 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 bon, que ce soit d'ailleurs dans les chaussures, dans les fringues, mais aussi dans les vélos, et donc même maintenant dans les vélos même titane, hein, parce que donc chez Deda ils font quand même du titane aussi, donc voilà.
Donc on aurait si on a cherché, on a regardé ce qu'on peut faire aussi, ces cadres en aluminium en France, mais c'est quand même beaucoup plus facile de les faire, toujours en gardant le même esprit. Bon, on reste sur une fabrication européenne. Alors, on avait déjà un peu franco-italien quand on montait de l'écart avec nos cadres fabriqués en région Centre-Val-de-Loire. Et aujourd'hui, on est sur une nouvelle gamme de Forsa à partir de 3 000 euros, 3 290 pour être précis, qui monte jusqu'à 5 000 euros avec tout type de montage, du GRX 400, 10 vitesses, 11 vitesses, 600, 800, 12, et puis le 13 avec l'écart.
Donc vous n'êtes pas totalement à la carte, mais vous avez des configurations déjà un petit peu plus...
On a des configurations établies, on propose des specs standards, je dirais, mais on s'adapte ensuite aux clients en fonction de leurs demandes. Sur les périphériques, on peut s'adapter, on essaye d'être agile. Alors, ce que tu disais qui est très intéressant sur les difficultés rencontrées par l'industrie du cycle, effectivement, suite au Covid, où tout a explosé, les ventes ont explosé, faut le dire, à un moment donné. Et puis, effectivement, les productions ont explosé. Aujourd'hui, les grosses marques, bien sûr, on le voit, ont du mal à financer leur stock. On a vu ce qui s'est passé, ce qui se passe avec Scott, avec le groupe Axel, etc. C'est quand même très compliqué. Giant, les grosses marques puissantes sur ce marché. Nous, aujourd'hui, on peut pas dire, on n'est pas impacté par cette problématique.
Oui, mais sur des volumes, vous les faites
on est petit, on est agile, on n'a pas véritablement de gros stock, on a le stock suffisant.
Oui, et puis vous n'avez pas, des distributeurs qui achètent un stock chez vous. C'est le problème, c'est ça, c'est les distributeurs de ces marques que tu évoques, qui pour l'Europe, etc., approvisionnent un stock prévisionnel, mais c'est une prévision établie sur une forte demande à une époque. Et du coup, si la demande elle chute, parce qu'il faut voir que les conditions économiques aussi ont quand même été bouleversées par l'inflation, par un certain nombre de critères, et aujourd'hui les gens sont un peu servis, et puis il y a aussi quelque chose de nouveau dans le monde du vélo, de nouveau qui vient modifier un peu la donne, c'est la revente de matériel d'occasion aujourd'hui, qui s'organise de façon très structurée et qui est une alternative intéressante pour les gens qui veulent faire acquisition d'un vélo, même d'un beau vélo.
À un prix somme toute tout à fait raisonnable, hein, effectivement, bien sûr. Je pense que après, d'un titre général, tout le monde a été impacté par la baisse de la consommation. Ça, personne ne peut le nier. On sait très bien. J'ai discuté pas plus tard qu'il y a deux jours avec le directeur de l'Observatoire du commerce, qui faisait part quand même de certaines inquiétudes sur toute cette partie retail et consommation, de par les conditions géopolitiques et tout ça, tout ce qui influence les gens à être prudents sur leurs dépenses. Et bien évidemment, on peut considérer que, au même titre que tout le monde, on est, même si on est petit, on est impacté par l'indécision potentielle de certains acheteurs qui seraient amenés à retarder
s'il faut faire un choix dans un ménage, effectivement, si c'est le vélo de monsieur ou le vélo de madame, etc., évidemment, il y aura discussion, j'imagine, sur des alternatives, enfin, sur les priorités.
On voit qu'on est sollicité aussi par bon nombre de clients qui nous disent, bon, je vous contacte, mais je réfléchis, c'est un projet que j'ai, etc. Et donc ça, on doit en tenir compte. En revanche, on sait que, en ce qui nous concerne, on a le potentiel de développement qui est là, parce que on est petit, parce que on propose de nouveaux produits à des nouveaux prix, et qu'on ne peut que croître dans cette perspective. je crois que ce qu'il faut prendre en considération par rapport à ce que tu dis sur le marché dans sa globalité, c'est qu'à un moment donné, toutes les marques ont beaucoup de modèles. On a entendu, là, on sait que le patron de Trek peut réduire le nombre de références, etc. Mais à un moment donné, le consommateur finit quand même aussi par s'y perdre, le magasin aussi, parce qu'il y a une foultitude de modèles qui, peut-être, n'ont pas toujours vraiment raison d'être. C'est un cumul. Donc,
Moi, je crois plus, par exemple, enfin, dans le monde de Gravel, que je connais un peu plus que le reste, je parle pas du VTT, qui a en plus une complexité énorme, j'arrive toujours pas à décoder ce qu'est un vélo de VTT, parce que du coup, il y a tellement de niches, de chapelles dans ces pratiques que je n'arrive pas tout à comprendre, mais je suis pas VTTiste, donc. Mais néanmoins, effectivement, cette complexité de gamme, qui, en fait, c'est des techniques de marketing, hein, c'est vrai que plus on crée de segments multiples, plus on pense élargir un marché. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu revoir ça. Et je pense que plutôt une configuration comme celle que tu évoques autour du Forza Alu, qui va être une offre à 3000 pour démarrer, qui peut monter à plus, elle se fait par l'équipement. L'équipement qui va, à partir de même géométrie d'un cadre finalement à tout faire. Dans un Gravel, c'est le bon exemple. C'est un vélo qui est capable de faire aussi bien d'aller faire son marché que de faire de la route, de la rando, du voyage.
Single track.
Et puis voilà, le single, et effectivement, ça fera pas du VTT, ça fera pas de la performance sur route, on fera pas des chronos, on fera pas des cyclosports en tête de peloton, mais on peut faire du cyclosport un petit peu derrière et se faire plaisir quand même avec un vélo comme ça.
On peut raisonnablement se faire plaisir. On a l'exemple, on a relancé une déco qu'on appelle héritage sur l'ensemble de notre gamme.
Oui, j'ai vu, je vais en parler d'ailleurs.
Ça nous tenait à cœur de, la déco d'Electa est tellement spécifique et reconnaissable qu'on s'était dit qu'il fallait absolument de faire qu'on puisse proposer cette option à nos clients. Ce qu'on a fait, on a livré à Cannes, pas plus tard que la semaine dernière, un Forza équipé en GRX. Et le retour était très intéressant parce qu'on a souvent affaire à des clients qui ont roulé des cyclistes. Alors là, on a un cycliste très averti, vététiste, triathlète pendant 20 ans, à un très bon niveau, qui a roulé sur du carbone, qui a une cinquantaine d'années, qui veut se faire plaisir, toujours en étant performant, avec un très bon vélo en acier. Et alors le retour, parce que bon, voilà, il a choisi le Forza, et le retour qu'il nous a fait immédiat après ses premières sorties, c'est qu'il était émerveillé par la qualité, le ressenti de roulage, qui se sentait aussi bien sur son Forza, sur les single track, il se sentait très à l'aise comme sur un VTT, et qu'ensuite, en sortant des single track et dans les Alpes-Maritimes, il avait récupéré un petit peloton sur la route. Il a les pneus en 700 par 40 et il pouvait les suivre sans difficulté sur X kilomètres. Voilà, donc c'est vraiment cette polyvalence qu'on a sur ce genre de produit, avec une notion de confort, mais aussi une forme de performance, bien sûr, qui n'est pas à la hauteur d'un carbone, avec beaucoup de rigidité, etc. Mais c'est pas ce qu'on recherche.
D'accord. Bon, bah, alors concrètement, finalement, Forza Alu qui va sortir. Est-ce qu'il est sur le site encore?
Alors, le Forza Alu.
Quand est-ce qu'il sera dispo?
Alors,
concrètement, pour les gens qui sont intéressés par le produit.
Si vous êtes intéressé par le Forza Alu, effectivement, le Forza est d'ores et déjà disponible sur le site, sur notre site dilectacycle.com. Il est proposé en 6 couleurs, avec, comme je le disais, 6 montages différents. Il vous suffit de nous contacter via le site ou alors d'aller dans un des points de vente que j'ai cité tout à l'heure qui peuvent vous proposer. Il sera disponible physiquement, je dirais. On est au mois de mars, dès le mois d'avril, vous pouvez avoir votre Forza entre les jambes.
D'accord. Alors j'ai oublié de dire pour nos auditeurs qu'en plus, Dilecta, c'est aussi quelqu'un qui fait des équipements textiles, parce qu'il y a des beaux maillots, des choses qui rappellent la marque. Effectivement, pour faire exister une nouvelle marque, évidemment, il y a un nouveau logo. Il y a effectivement cette possibilité aujourd'hui de remettre son vélo, je dirais, dans une déclinaison des marquages de l'époque, hein, avec un lettrage tout à fait... Mais revisiter, c'est un mélange néo-rétro, quoi. C'est en fait
du nouveau, mais qui rappelle l'ancien. Donc c'est très, très intéressant de voir ça. J'ai oublié aussi de te poser la question. Peinture et montage sont faits où en Italie, à l'endroit où sont réalisés les cadres, ou est-ce que vous allez le faire en France, ou qu'est-ce, comment, quelle est votre stratégie par rapport à ça au niveau développement, je dirais, de la, du montage.
Tout à fait, très bonne question. Alors, bon, le montage est fait à Aix-en-Provence aujourd'hui. On est sur Aix.
D'accord.
On rassemble les cadres qui sont fabriqués à la fois en France, pas en France, dans toute la gamme acier, qui est fabriquée en France. La gamme alu aujourd'hui, fabriquée en Italie et peinte en Italie également. Et on assemble les vélos dans les ateliers à Aix.
D'accord.
C'est je dirais, l'objectif de déploiement, je dirais, au niveau du montage des ateliers. C'est à Aix qu'on veut se positionner, structurer, je dirais,
très bon choix.
Très bon choix.
On va pas le contester.
Voilà, exactement, c'est un très bon choix parce que le terrain de jeu, il est quand même exceptionnel.
Alors bon, oui, c'est pour des considérations. À proximité des hubs, finalement, de transport, etc., voilà, qui nous permettent de recevoir, finalement, l'Italie est pas si loin que ça, par les autoroutes.
Tout est
réceptionner des cadres. Voilà. Et puis vous pouvez les ventiler sur la France, effectivement, par tous les moyens de transport qui existent à partir de cette région, puisque c'est proche de Marseille quand même. Bah écoute Eric, merci beaucoup. On a été très bavards, mais c'était très très intéressant. C'est pour ça qu'on sommes bavards, toi comme moi d'ailleurs.
On est
passionnés, on aime bien l'histoire du vélo, et puis là, on plonge avec Dilecta à la fois dans l'histoire. Et puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que moi, je suis passionné de marketing, de voir un petit peu comment, enfin, à partir d'une marque comme ça qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous le tapis. Enfin, on n'en parlait plus du tout. Elle n'était pas profonde dans la culture des Français par rapport à ces immenses marques qui ont existé, qui l'ont un peu étouffée à une époque de la culture du vélo français. Mais moi, franchement, quand je t'ai rencontré la première fois, je ne la connaissais pas du tout. Ça n'a même pas évoqué. C'est-à-dire que moi, j'ai roulé sur des Peugeot dans les années 70, tu vois. J'étais fan de tous ces gens-là. Évidemment, après, c'était Hino et donc avec Gitane. Donc, en fait, pour moi, Dilecta, c'était encore la génération d'avant. Donc, du coup, on avait un petit peu occulté la marque. Et aujourd'hui, on compte sur toi. C'est bien parti pour la mettre au devant de la scène.
Merci,
Patrick. Merci beaucoup, Eric. Merci. Passé. Et puis à très bientôt.
À très bientôt, merci à toi.
Blabla, le podcast de Bike Café.